Cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe, le 25 juin 1999 à Saint-Jeudor.
Le bien commun est plus divin que le bien individuel. Cette phrase d'Aristote, n'est-ce pas, qui a fait beaucoup couler d'encre, elle est très compréhensible dès qu'on comprend la différence entre le bien individuel, pas le personnel. Le bien personnel transcende le bien commun, puisque c'est la contemplation et la recherche de la vérité. Tandis que le bien individuel, c'est un bien temporel. Le bien commun est un bien qui peut être spirituel, mais qui est temporel. Il peut être spirituel parce que la culture représente quelque chose d'important. Et on a le droit de se battre pour garder cette culture et ne pas se laisser prendre par quelqu'un qui, au point de vue tyrannique, vous ramène à une culture matérielle, d'un matérialisme. Alors, le bien commun, ça se définit négativement, soit c'est le bien qui n'est pas celui d'un individu, qui demeure le bien de tous les citoyens d'un pays. Et ce bien, il est fait par ses citoyens. C'est un bien qu'on fait, qu'on augmente. On l'augmente progressivement. Il est entre nos mains. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose d'une façon abstraite. C'est quelque chose qui se réalise à travers toute une culture. Au point de départ, le bien commun est très peu de choses. Et le bien commun, au bout d'un certain temps, pour l'Europe par exemple, il y a un bien commun, l'Europe. Ce bien commun de l'Europe, il est difficile à préciser. Et en même temps, on voit en gros ce que ça représente. Ça revient le fruit de toutes les civilisations précédentes. Le bien commun de l'Europe s'enracine dans le point de vue chrétien. Et le bien commun comme tel n'est pas le point de vue chrétien. C'est les éléments religieux et humains qui sont nés à travers une culture chrétienne. Le bien commun n'est pas le bien d'église. Mais il est ce qui a permis à la science de naître, à l'art de naître, toute une culture. Un climat qui permet le développement de la science. Alors quand ce développement de la science va vers quelque chose qui n'est plus humain, et c'est là la chose très délicate, qui n'est plus humain, certaines recherches qui sont plus des recherches orgueilleuses que des recherches humaines. Est-ce que cela fait partie du bien commun? Vous voyez, très délicat. Les lois qui permettent l'avortement dans certaines conditions, est-ce que ça fait partie d'un bien commun? On peut dire que dans certains cas, peut-être, mais pas universel. Alors la loi est universelle. Alors universaliser quelque chose qui peut être, dans certains cas, une solution, n'est pas du bien commun. Le bien commun, c'est le bien de tous, dans certaines conditions. Autrement, c'est plus le bien commun. Qu'il y ait des exceptions, très bien, mais ces exceptions ne sont pas du bien commun. Ce sont des exceptions. qui relève de celui qui gouverne, qui, au nom de la prudence, peut donner certaines permissions particulières qui sont nécessaires. Vous voyez, il y a une très grande différence entre l'épiquie et le bien commun. L'épiquie, c'est, dans des circonstances spéciales, l'application de la loi matériellement serait une erreur. Il faut remonter à la source pour comprendre l'intention de celui qui a fait des lois. Alors, le bien commun implique tous les éléments qui ont favorisé une civilisation, une culture. Alors, vous voyez, tout le domaine de la culture scientifique, tout le domaine de la culture philosophique, permettre à des philosophes d'être des philosophes et de vrais philosophes, de vrais sages, ça fait partie du bien commun. Faire que, de fait, les études philosophiques sont mises en telle condition que pour pouvoir parvenir à ces études, il faut être un croyant. C'est contraire au bien commun. Ce qui est terrible, c'est qu'au fond, il n'y a pas de visite canonique par rapport au bien commun. Pour voir à quel moment, de fait, le bien commun n'est plus le bien commun. Les sages devraient gouverner là-dessus. Et ça relèverait de la sagesse. Et d'un jugement de sagesse. Les anciens. Or, ça n'existe plus, ça. Tout est remis au point de vue politique et l'économie est remise au point de vue économique. Donc, il n'y a plus de direction dans le bien commun. Dans le bien commun spirituel, on va à la dérive. Ça, c'est sûr. Parce qu'on peut regarder dans les lois celles qui sont vraiment pour le bien commun et celles qui usurpent. Vous voyez, c'est ça qui est terrible dans la politique des partis. C'est que la politique des partis, par définition, ne va plus, n'est plus celle du bien commun. C'est la politique des partis. Quand un parti l'emporte sur l'autre, il le manifeste. Et il ne met plus les hommes compétents là où il faut. Il fait par 36 manières, par des manœuvres politiques, il écarte ceux qui ne sont pas du parti. Et qui pourtant ont les compétences meilleures que celles du parti. Alors je crois qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de politique. On est en face de régimes dictatoriaux, en face de partisans qui dominent et qui pratiquement ne regardent plus le bien commun. Parce qu'il n'y a plus aucune philosophie de la nature humaine, aucune philosophie du bien, de la finalité de la nature humaine. C'est très difficile aujourd'hui, hein, à cause de ça. Parce que c'est là où la philosophie politique devrait jouer. Pour préciser quel est le bien commun propre à un Américain des États-Unis, propre à un Canadien, propre à un Mexicain, propre à un Brésilien. Les biens communs sont différents. Propre à l'Europe. Regardez les élections européennes, le point de vue du bien commun de l'Europe n'est absolument pas évoqué. On n'a pas défini quel est le bien commun de l'Europe. Tant qu'on n'a pas précisé le bien commun de l'Europe, on ne sait pas où on va. Parce qu'il y a un bien commun. Si on s'unit, c'est pour un bien commun. C'est pour une finalité commune. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est de s'apercevoir qu'au fond, le point de vue politique n'existe plus beaucoup. Je parle de l'Europe. bien commun en Amérique existe mieux. Il y a encore des éléments qui demeurent plus. Le bien commun de l'Afrique, il est hélas constamment en référence avec ou l'Amérique ou l'Europe. Et alors, par le fait même, il n'y a pas de politique propre américaine. Et, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre pour que chacun d'entre nous, qui devons être des citoyens capables de comprendre leur pays, puisse réfléchir sur ce qui caractérise une culture européenne qui est complexe, puisque vous avez trois éléments tellement différents. L'aspect latin, l'aspect germanique, l'aspect anglican. Des éléments qui se reflètent dans la culture, dans l'art, dans la religion. Et c'est toujours à travers ces différents aspects-là que je peux définir l'aspect spirituel du bien commun. L'art. Il y a des pays où la peinture a dominé, où les gens sont plus orientés vers la peinture, ou l'architecture. Et des pays sont plus orientés vers la sculpture, vers la musique, vers la danse. Ça fait partie de ces cultures-là. Et je crois que le génie d'un pays qui sort de son bien commun fait partie de cette recherche du bien commun. On doit sauvegarder ça. Et on fait bien. On a bien un souci de garder la faune et la flore d'un pays. On a des réserves d'animaux. Et on n'a aucune réserve du bien commun spirituel. Aucune, aucun sens de ça. On a un certain sens des biens dans l'architecture, dans la sculpture, dans la peinture. On a un certain sens de garder le patrimoine. Et au fond, garder le patrimoine, c'est ça, le patrimoine d'un pays. Et on n'a aucun sens pour garder les choses d'ordre spirituel, de la sagesse. Mais c'est là où vous pouvez voir comment une civilisation se dégrade, une culture se dégrade. Et vous pouvez peut-être toucher le pouls d'une culture qui se dégrade. Et donc, d'un bien commun d'un pays ou de l'ensemble d'un pays qui se dégrade. Et ça se dégrade très vite. Et on aurait un baromètre pour saisir la température du bien commun d'un pays. Et une philosophie politique doit nous donner le sens de ça. Et doit nous donner le sens de ça, et donc par le fait même, dans la mesure même où on peut, on essaie. C'est pas faire de la politique, ça. Ça, c'est garder le bien d'un pays. Garder son patrimoine, ses ressources spirituelles. Aujourd'hui, on ne voit plus que l'aspect économique, l'aspect efficace économie. Et on détruit le reste pour cela. C'est ça qui est terrible. Le bulldozer n'est pas seulement par rapport à l'aspect de la terre pour faire des routes et aplanir certains endroits. Il y a un bulldozer spirituel qui est beaucoup plus terrible. Et ce bulldozer spirituel est farouche. Oui. On l'a vu pendant certaines révolutions où complètement on détruit. Oui. Qu'est-ce qui reste de Cluny ? Qu'est-ce qui reste de Cluny? Qu'est-ce qui reste de telle ou telle richesse architecturale qui, la plupart du temps, était liée à la religion et donc au christianisme? Et parce que c'était lié au christianisme, il fallait le supprimer. Alors on respecte l'architecture de certaines religions, mais quand il s'agit du point de vue chrétien, on fait plus d'attention aujourd'hui à ça. Mais à certains moments, on sent très bien qu'on n'a fait aucune attention. Oui, je prends ces exemples-là pour vous faire comprendre ce que c'est que le bien commun. Et dans un pays où il n'y a plus aucun sens de garder le vrai bien commun d'un pays, spirituel, artistique, point de vue artistique et dans le point de vue spirituel, un point de vue qui permet de maintenir une certaine dimension spirituelle dans un pays, dans la mesure où on ne respecte plus cela, nécessairement, le poids économique l'emporte sur tout. Et le poids économique est toujours matériel. Donc, voyez, cette notion du bien commun varie selon les pays. Et c'est même très intéressant si on pouvait faire dans chaque culture comme un différent niveau de valeur de ce bien commun. Qu'est-ce qui prime dans tel pays? Alors, les élections donnent en partie quelque chose de ça, mais pas entièrement, parce que les élections sont toujours intéressées. On devrait pouvoir, dans un pays, découvrir chaque année le niveau de la culture. Si ça baisse, ça monte. Indépendamment de l'efficacité, uniquement au point de vue bien commun. Quelles sont les intentions d'un pays par rapport à ça, les intentions dominantes? Alors, Malraux dit des choses très intéressantes sur le point de vue du musée. Les musées font partie du bien commun. Les musées sont des lieux où on met à l'abri des œuvres qui risqueraient autrement d'être dilapidées. Alors c'est l'État qui s'en empare. Les musées, c'est une certaine réaction bonne, mais qui indique que, de fait, l'opinion publique n'est plus assez forte et assez intelligente pour garder le patrimoine d'un pays. C'est au fond très grave, l'apparition des musées. Et ça avait beaucoup inquiété Malraux, ça. Or, Malraux, c'est l'art, le patrimoine, la culture. C'est ça l'intérêt de Malraux. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le patrimoine d'un pays et qui a essayé de préciser certaines choses, certains éléments. C'est pas un vrai philosophe, au plan politique. Ce n'est pas un vrai philosophe de l'art, mais c'est quelqu'un qui a réfléchi sur ces choses-là et qui essaie de comprendre et qui a saisi très profondément la tentation permanente dans laquelle nous sommes du primat de l'économique, du primat d'un progrès uniquement technique et efficace. Vous voyez, on est prêt à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Enfin, ça, c'est dans l'écriture. C'est très significatif. Hein, le fils aîné, qui est en pénurie au point de vue économique, il désire son plat de lentilles. Il vend son droit d'aînesse. Il y a un droit d'aînesse au point de vue culture. On ne peut pas nier. Et on vend son droit d'aînesse pour un aspect uniquement économique. Et là, Et c'est ça qui serait intéressant, voyez. Quand on lit l'Écriture, il y a quand même tout un gouvernement de Dieu sur un peuple. Il faudrait relever tous ces axiomes. En politique, il y a beaucoup d'axiomes. Pas des principes, mais des axiomes. Qui donnent le climat, qui donnent le baromètre d'une famille, qui donnent le baromètre d'un pays, qui nous montrent où on en est. Et ce serait très intéressant, quelqu'un qui veut lire toute l'Écriture du point de départ jusqu'à la fin au plan politique, relève tout ce qui est comme des axiomes qui montrent une sagesse d'un peuple qui a réfléchi au plan religieux, au point de vue humain, sur la conduite de Dieu sur lui et jusqu'où cette conduite a été. Vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est pas considéré comme un progrès, hein. C'est considéré comme un moment de lâcheté. Et au point de vue politique, il y a un procédé d'intimidation qui peut faire arriver à ces positions-là. Alors, en ce sens-là, la politique indique une dégradation. Mais aussi, la politique devrait indiquer un élan vers quelque chose de plus parfait. Alors on voit ça chez certaines femmes. Judith, qui coupe la tête à Holoferne. Enfin, face à la tyrannie, l'héroïsme, il y a un appel à l'héroïsme qui doit exister pour relever la tension. Et là, il y aurait des exemples. Comme la mort de Socrate a servi d'exemple au plan politique, au point de vue moral. Vous voyez, là, l'Écriture et l'histoire du peuple juif est quelque chose de merveilleux. Parce qu'il y a une conduite de sagesse divine, alors religieuse, mais au niveau adoration, au niveau religieux, c'est ça qui m'intéresse au plan philosophique. Pas la conduite des prophètes, bien que les prophètes énoncent des principes extrêmement importants. Mais le décalogue, la Torah, fait partie d'un bien public, fait partie d'un patrimoine, et d'un patrimoine extraordinairement important et intéressant. Oui, donc réfléchissez, là on ne perd pas son temps. Et ce serait très intéressant d'arriver à une sorte, vous voyez, comme il y a les lieux théologiques, il y aurait les lieux politiques pour un pays. Qui ne sont pas des principes, qui sont comme des axiomes, et qui essaient de donner les différentes valeurs du bien commun. Au plan philosophique, qu'est-ce qui viendrait après ? Alors, le bien commun va jusqu'à sauvegarder la communauté familiale. Un État qui ne s'occupe plus de la famille et de la fécondité est un État qui se meurt. Quand les décès sont plus nombreux que les naissances, c'est un État qui se meurt. Et on sait qu'au bout de quelques années, il n'ira plus, il disparaîtra. Parce que, de fait, le temps mène à la corruption par la cause matérielle. La corruption par la cause matérielle se fait toujours. Elle demande un élan de conquête par la finalité, pour que un pays ne meure pas, pour qu'un pays ne disparaisse pas. Autrement, il disparaît. Il disparaît comme un pays vieux qui n'a plus assez de force pour conquérir. Et ce sont les pays jeunes qui, alors, eux, sont conquérants. Ça, on peut le faire, voyez. On peut faire ces courbes-là. Mais on les fait ordinairement avec des principes faux. Avec des axiomes faux. C'est-à-dire avec une vision du bien commun qui n'est pas juste. Il faut arriver à une conception du bien commun qui soit juste, où on ne confond pas le bien spirituel, le patrimoine, le vrai patrimoine d'un pays, et ses biens temporels. Alors, au point de vue de la famille, aider la famille à exister, aider la famille à élever ses enfants d'une façon digne, d'une façon humaine, aider la famille à manger et à augmenter le nombre des citoyens est un bien pour un pays. C'est même, je dirais, parmi le bien commun, peut-être le premier, le plus fondamental. Pas le premier au point de vue finalité. Au point de vue finalité, le premier au point de vue finalité, c'est maintenir l'adoration et la contemplation. Un pays qui n'adore plus, un pays qui ne contemple plus, est un pays qui perd la source de son rajeunissement. Et donc c'est un pays qui dégringole. Donc, là, les deux extrêmes. Et ça, les deux extrêmes, on peut les situer facilement. Et l'autre extrême, c'est de ne plus s'occuper de la famille. De ne plus s'occuper que, de fait, les morts sont plus nombreux que les naissances. Si on ne s'affole pas à ce moment-là, si on n'essaie pas de corriger ça, un pays va à sa perte. Si on a mis des lois qui empêchent le développement de l'adoration et de reconnaître l'aspect religieux, c'est un pays qui va à sa disperdition. Les deux grandes sources. Et quand ces deux sources communiquent mutuellement, ce qui arrive souvent, la diminution va très vite. Vous voyez, c'est plus facile, au point de vue politique, de voir la destruction, l'anarchie, au point de vue politique, que de voir le progrès. C'est beaucoup plus difficile de voir le progrès, parce que vous n'avez pas de principe de finalité. Vous n'avez que des axiomes en vue de la finalité. Vous n'avez que des axiomes qui donne un certain équilibre juste des forces mauvaises, des forces négatives et des forces positives. Et si vous laissez le vent s'imprimer, alors dans vos limites. C'est intéressant, mais c'est beaucoup plus difficile de voir la montée. Alors de fait, c'est la situation dans laquelle on est, au moins pour l'Europe. La montée est très difficile. Vous voyez, pour aider à la montée. Auquel tous les citoyens devraient aider à la montée. Or, de fait, on constate très bien les blessures, les choses dangereuses pour un pays, pour qu'il baisse. Et on décèle beaucoup plus difficilement ce qu'on devrait donner pour qu'il monte. Et qui ne s'accroche et qui ne se laisse pas descendre simplement par le poids de la pesanteur. Parce que ça, c'est un suicide. Au point de vue politique, il faudrait ensuite regardez comment un pays s'organise au plan proprement politique. Autrement dit, les lois de la nécessité des lois pour un pays. la nécessité des lois pour un pays provient de ce fait que l'homme a une pente naturelle à la désagrégation, une pente naturelle à ce qui est pour lui le plus facile. Nous, nous disons, en théologien, les conséquences du péché originel. On constate que, de fait, ordinairement, un pays, ou bien une communauté, se dégrade vite. Elle a besoin constamment d'être reprise, et la manière d'être reprise, ce sont les lois. Les lois doivent constamment être réadaptées, reprises. Mais comment établir les lois ? Pour établir les lois, il faut avoir une vision nette du bien commun et vraie du bien commun. Donc, vous voyez, le bien commun permet l'élaboration de lois justes, de lois bonnes. Quand on ne sait plus ce qu'est le bien commun d'un pays, on ne peut plus ériger des lois saines, bonnes. On se laisse mourir à petit feu en essayant d'arrêter le plus qu'on peut une hémorragie. Un feu qui prend tout. On sauvegarde des petits biens, ces biens, le bien familial, l'héritage paternel. On essaie de sauver ça, mais il n'y a pas de politique de redressement. Et ça coule. Pourquoi ? Parce que les lois se prennent à partir du bien commun. Il n'y a que Platon qui peut ériger des lois à partir de la justice en soi, à partir de la théoria et de la contemplation en soi. Alors, il érige des lois au niveau moral, des lois politiques au niveau moral, la justice en soi. Et ça n'est pas juste. Mais cela arrive très souvent. Quand on est sur une pente de fragilité, très facilement, on devient tyrannique au niveau moral. Et on croit que c'est ce point de vue moral qui doit sauvegarder. Ce n'est pas ça. C'est la hiérarchie des biens communs. Et le premier bien commun n'est pas la vertu. Le premier bien commun, c'est l'amitié. C'est l'amour d'amitié qui touche un point de vue d'amour et qui permet aux êtres humains de s'unir. Il faut être deux pour réagir contre un débordement négatif. C'est l'avantage de l'amitié, c'est qu'on est deux. Vous voyez, et ça aussi c'est très important. Parce que c'est par petites communautés, c'est bien par des petites communautés que le bien commun peut se redresser. Et ce n'est pas par le point de vue du bien moral. En premier lieu, le bien moral fait partie du bien commun, les vertus font partie du bien commun, mais les vertus ne sont pas ce qu'il y a de premier. Quand les vertus commencent à être ce qu'il y a de premier, on est sûr que la dégringolade continue. Il faut d'abord apprendre aux hommes à s'aimer. Et à partir de là, on peut relever un pays en faisant que les lois sont en vue de ce bien commun sont pour ce bien commun, pour le relever et lui permettre d'être fort. Et alors, il y a là quelque chose de très important au point de vue philosophie politique. Comprendre ce qu'est la loi, comprendre pourquoi la loi et comment donner des lois justes. Qui peut donner des lois justes? Ça ne s'invente pas, hein? Il ne faut pas attendre l'intuition. Qui peut donner des lois justes? Qui sont les législateurs dans un pays? Quelles sont les qualités pour un législateur de donner des lois justes? Vous voyez, c'est ça qu'on peut faire en politique, en philosophie politique. C'est d'ordonner les différents points, comprendre que sans bien, sans vision nette du bien commun, vous ne pouvez pas donner des lois. Et ne pas croire que la loi va redresser un pays. Non, c'est pas ça. C'est l'amour entre les citoyens qui permet à un pays de revivre. Et à partir de cet amour, on commence à comprendre le bien commun. Et à partir de là, on peut ériger des petites lois qui aident à maintenir une ferveur commune.